L'enseignement qu'on a à faire aujourd'hui a pour thème la souffrance du juste. On a beaucoup parlé de vous, des comportements bons ou mauvais. Alors on va faire cet enseignement sous la souffrance du juste, la première partie. Le passage qui sert de pilier introductif pour l'enseignement sur la souffrance du juste est Job 2, le verset 7 à 8. Job 2, le verset 7 à 8, dit que « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. La fidélité de Dieu ne garantit pas aux croyants une vie libre de toute souffrance, de toute douleur et de tout problème. Vous devez voir ensemble acte 28, le verset 16. On va lire ça tout à l'heure. En fait, Jésus a enseigné que nous devrions nous attendre à de telles tragédies. Toujours parmi les éléments que nous allons lire, Jean 16, verset 1 à 4, Jean 16, verset 1 à 4, ainsi que le verset 33. Vous avez Tite 3, le verset 12. La Bible mentionne plusieurs exemples d'hommes fidèles qui ont eu à souffrir pour diverses raisons. Vous avez Joseph, vous avez David, vous avez Job, vous avez Jérémie et Paul, par exemple. Prenez d'abord les passages que nous venons d'indiquer. Acte 28, le verset 16, Jean 16, verset 1 à 4, ainsi que le verset 33, Tite 3, le verset 12. Nous vous écoutons.
Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Amen.
Amen. Je voudrais donner comme commentaire que Paul désirait prêcher l'évangile à Rome. Et c'était également la volonté de Dieu qu'il le fasse. Cependant, c'est dans les chaînes et après bien de contre-temps, des tempêtes, un naufrage et de nombreuses épreuves que Paul arriva dans la capitale de l'Empire. Bien que Paul soit resté fidèle, Dieu ne lui a pas tracé un chemin facile et exempt de tout problème. De même, si nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous lui sommes entièrement fidèles, cela n'empêchera pas forcément qu'il nous fasse emprunter des sentiers désagréables et qu'il permette que nous rencontrions des difficultés. Cependant, nous pouvons nous rappeler que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est très important. Je tenais à vous faire cet enseignement parce que il va vous affermir. Et il va vous permettre de mieux comprendre le présent. Et il va ainsi vous préparer aux victoires futures. Le deuxième passage qui a été donné, c'est lequel? Jean 16, de 1 à 4, ainsi que 33.
Jean 16, le verset 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur bien où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous se souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous avez la paix et en moi vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Amen.
Vous n'avez pas applaudi suffisamment fort. Voici donc les choses que l'Esprit Saint peut faire. Prendre un enfant et vous lire un passage alors que vous tous en tant qu'adultes vous êtes convaincus que c'est trop long pour lui. Sois abondamment béni, mon fils. Est-ce que vous avez localisé Tite 3, le verset 12?
Tite 3, verset 12. Lorsque je t'enverrai Artémas sous Tite, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Amen.
Amen. Devez donc comprendre, par rapport à l'esprit de ce que nous sommes en train de faire, que la difficulté est importante dans la marche avec Dieu. Si vous n'avez pas de difficulté, vous ne pouvez pas grandir en Christ et vous êtes vulnérable devant l'adversaire, l'ennemi. Nous allons approfondir, n'est-ce pas, notre enseignement sur cette question. La raison pour laquelle les croyants souffrent, les raisons pour lesquelles les croyants souffrent. Le croyant peut souffrir pour plusieurs raisons différentes. La première raison, c'est que le croyant souffre à cause de la chute d'Adam et d'Ève. Quand le péché est entré dans le monde, la douleur, la peine, les conflits et la mort ont envahi la vie de tous les êtres humains. Vous pouvez avoir la référence au niveau de Genèse 3, le verset 16 à 19. Paul écrit, « Comme par un seul homme, le péché a entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » On peut voir aussi Romains 5, le verset 12, dans cet esprit-là. En fait, toute la création gémit à cause du péché et soupire dans l'attente des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Toujours les références qu'il faut exploiter sont Romains 8, le verset 20 à 23, 2 Pierre 3, le verset 10 à 13. Nous devons donc toujours nous reposer sur la grâce de Dieu, ainsi que sur la force de sa consolation. Et dans ce sens, nous avons 1 Corinthiens 10, le verset 13. Vous pouvez donc retrouver les passages et les lire avec nous. Les passages, vous allez les lire, sont Genèse 3, le verset 16 à 19, Romains 5, le verset 12, Romains 8, le verset 20 à 23, 2 Pierre 3, le verset 10 à 13, et 1 Corinthiens 10, le verset 13.
Genèse 3, le verset 16 à 19. Il dit à la femme, « J'augmenterai ta souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour le vie de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen.
Continuez, enchaînez avec la lecture.
Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen.
Je donne un commentaire dans le sens de Romains 5, 12. Lors de la chute d'Adam et d'Ève, le péché a pénétré dans la race humaine, comme un principe ou une puissance active. Donc, deux conséquences sont apparues. La première, c'est que le péché et la corruption sont entrés dans le cœur et dans la vie d'Adam. C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que Adam a transmis le péché à la race humaine, ce qui allait entraîner la corruption de tous les hommes qui naîtraient dans la suite. Aujourd'hui, tous les hommes naissent avec une tendance au péché et au mal. C'est à cause de cela. L'autre élément au niveau de l'analyse, Paul n'explique pas comment le péché d'Adam est transmis à ses descendants. Il ne dit pas non plus que tous les hommes étaient présents en Adam et qu'ils ont participé à son péché et que par conséquent, ils ont hérité de la culpabilité d'Adam. Mais Paul ne dit pas non, il ne dit nulle part qu'Adam était la tête de ses descendants et que son péché leur a été imputé. Tous les hommes, et ça c'est très important de comprendre cela, tous les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leur propre péché, parce que tous ont péché. Et la seule doctrine que soutient la Bible affirme que les hommes héritent la corruption morale et une impulsion qui les conduit vers le péché et le mal. Ça veut dire que quoi? La mort est entrée dans le monde par le péché. Et maintenant, tous les hommes sont assujettis à la mort parce que tous ont péché. Donc, c'est une logique génétique qu'il faut lire derrière. Mais la génétique n'exclut pas la responsabilité individuelle qui est au-delà. C'est pourquoi je voulais que vous ayez ce commentaire avant qu'on aille plus loin. Vous avez certainement localisé Romains 8, le verset 20 à 23, et 2 Pierre 3, le verset 10 à 13. Lisez, s'il vous plaît.
Romains chapitre 8, verset 20 à 23, il est écrit: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant, l'adoption, la rédemption de notre corps humain.
À cause de la condition première, nous sommes obligés de nous battre pour passer des examens et nous sommes dans l'espoir d'une rédemption et du salut. C'est la situation actuelle. Et cette situation ne va pas changer de sitôt parce qu'il y a un temps pour cela. Le temps de vie que nous on a sur terre est trop court pour qu'on vienne vivre le temps de la fin qui est prévu plus loin. Par contre, nous avons la possibilité d'être parmi les élus à terme, même si nous mourons maintenant dans de bonnes conditions, parce qu'on aura la grâce de la résurrection des corps. Les corps qui vont être ressuscités, ce sera plus des corps corruptibles, mais des corps incorruptibles. Parce que la structure de notre corps aujourd'hui est telle que nous sommes sensibles à certaines choses. Les corps avec lesquels on va renaître vont faire qu'on ne pourra plus s'exclamer quand on voit les formes, les mouvements et les couleurs. Il n'y aura plus des hommes pour dire où me mets-je. Ils auront atteint certaines perfections, leur corps ne sera plus sensible à certaines choses. Il n'y aura plus des gens pour manger pour 4 personnes, etc. etc. Il n'y aura plus des gens pour mentir. Et qu'on dirait qu'il a un virus spécial mensonge. S'il ne ment pas, c'est que ce n'est pas lui. Il n'y aura plus les gens plus volés. Il y en a qui volent avant de réfléchir sur la raison du vol. Il a volé d'abord, il réfléchit après. Il n'y aura plus les gens pour insulter. Il n'y aura plus les jaloux, etc., etc. Est-ce que vous avez exploité les deux autres passages qui restaient?
2 Pierre 3, verset 10 à 13 dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Plus tant, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de vos conduites et vos piétés. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les yeux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen.
Si Jésus-Christ reviendra comme un voleur, cela signifie que personne ne peut savoir le jour où il viendra, n'est-ce pas? Ni le jour, ni l'heure. Alors, si un individu se dit qu'il peut pécher parce que de toute façon, il a le temps de se rattraper, il risque d'être dans le creux de la vague au moment où il est trop tard pour se racheter. Quand le voleur vient chez vous, il vous avertit. Il y a quand même une catégorie de voleurs super arrogants que j'ai vu au Cameroun, qui était arrivé à ce stade-là. Bon, André, je viens chez toi lundi sur le prochain. Et dis à tous tes voisins que je viens, vous préparez mon sac. Oui, et gardez tout. L'argent, les bijoux, les portables. Et ne me perdez pas le temps quand je vais arriver. On a vu des voleurs, mais ils avaient fait ça parce qu'ils étaient arrivés à un stade où ils avaient constaté l'incompétence des services de sécurité dans le pays. Mais ça a changé. Puisque de toute façon, quand vous avez l'insécurité croissante dans un pays, il faut se poser la question de savoir où est la police et la gendarmerie. Même si la gendarmerie fait partie de l'armée, elle fait partie des services d'infiltration et donc de sécurité. J'ai déjà eu des situations comme ça au niveau de la gestion de la sécurité nationale en tant qu'expert. Quand la police faillit, c'est la gendarmerie qu'on appelle en soutien. Donc je sais que c'est comme ça que ça marche. La gendarmerie est une force d'infiltration territoriale et particulièrement urbaine. Donc, quand vous avez des bandits qui savent déjà qu'ils peuvent donner rendez-vous, il faut se demander s'ils ne sont pas complices avec les policiers. Ce n'est pas normal. Donc, si Jésus-Christ viendra comme un voleur, comme on ne sait pas quand il vient, il vaudrait mieux que à chaque instant, on soit prêt à le recevoir. Donc, on doit s'arranger à ce que notre dossier soit bon au ciel, à tout moment de notre vie. On n'a pas le droit de dormir dans le péché ou de dormir avec le péché. C'est très, très important. Il faut comprendre cet esprit-là. Nous sommes dans la voie de la sanctification. Nous sommes dans la logique de la sainteté. Et c'est ça qui compte dans ce ministère. Nous, on a besoin des saints. Et ce ministère fabrique des saints. Il forme à la sainteté. Et chacun d'entre vous doit être propre quand Dieu arrive. Que quand Dieu regarde, il demande que, quel est son dossier? On dit que papa, il est saint. Ok. Faites l'entrée par le bon côté. Quel est le dossier? Lui aussi, il est saint. Ok. Le ministère, si est bien. Lui aussi, ah, ok. Le ministère, si est bien. Faut pas qu'il arrive comme ce qu'on m'a annoncé de ce qu'il va trouver là-bas. Il y en a qui ne connaissent même pas la parole. Ils disent qu'ils servent Dieu. Il faut que vous vous nourrissiez avec toute la vigueur pour que le jour où Christ arrive dans votre vie, que vous soyez propre, irréprochable devant Dieu, selon les principes de Dieu. Ainsi, vous serez des justes à ses yeux et ainsi, vous aurez la grâce de la récompense et de votre héritage dans son intégralité.
1 Corinthiens 10, verset 13, il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen.
Est-ce que vous avez compris l'esprit de cette parole? Certains d'entre vous peinent. Certains d'entre vous sont harcelés. Certains d'entre vous sont provoqués de façon régulière. Et ils ne se rendent pas compte de ce principe qui dit que vous ne pouvez pas avoir une épreuve qui soit au-dessus de vos forces. Parce que Dieu, en réalité, quelles que soient les épreuves que vous avez, même si elles ont l'air terribles, Dieu sait que les ressources qu'il vous a données sont des ressources qui permettent de résoudre ce problème. Ne soyez pas des personnes qui lâchent prise ou des personnes qui abandonnent en cours de route. Vraiment, c'est grave, hein? Je suis fatigué, je ne peux plus. Il n'y a pas « je suis fatigué, je ne peux plus ». Si tu vous dis « je suis fatigué, je ne peux plus », rappelez-vous de 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous pouvez, d'accord? Parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous pouvez. Voilà. Dites au voisin « je peux ». Il n'a pas entendu. Voilà. Il n'a pas bien compris. Dites-lui que « en Jésus-Christ, je peux ». Dis encore au voisin que en Jésus-Christ, rien ne peut me dépasser. Voilà, là le voisin a compris. Et quand un autre voisin va te dire, tu vas lui dire que va lire 1 Corinthiens 10, verset 13. Tu appuies ça sur la parole. Le deuxième élément, c'est que certains croyants souffrent tout comme des incroyants. C'est-à-dire qu'ils subissent les conséquences de leur action. Le principe qui veut qu'un homme récolte ce qu'il a semé, qui est dans Galates 6, verset 7, s'applique de façon générale à tous. Lorsque nous nous conduisons imprudemment, nous risquons davantage d'avoir un accident sérieux. Si nous faisons preuve d'indiscipline dans nos habitudes alimentaires, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes de santé, si ce n'est d'abord d'indigestion, tels que trop manger. Oui, il y a des gens qui mangent tellement que l'estomac commence à bousculer les autres organes. Quand l'estomac a déjà pris un certain volume, c'est le fait qu'il bouscule les autres organes qui pose problème. Les autres organes commencent à souffrir de la violence que l'estomac leur inflige. Ils commencent à dire que c'est comment, non? Occupe seulement ta place, non? Maintenant, tu viens prendre aussi ma place. Donc, réfléchissez sur vos capacités extraordinaires de consommation. Mais il y a d'autres qui savent manger. Brutalement alors. Il prend le pain, il met d'abord le beurre dedans. Il met le beurre dedans, il met la pâte d'arachide dedans. Et après la pâte d'arachide, il met le chocolat. Et il dit que t'en suffis pas, il faut mettre l'huile sur ça. Je suis surpris que certains fassent ça et ne pouvant que ça n'explose pas. Je vous vois souvent avec les pains, parce que normalement, un pain, on le tartine. Il faut parler français. Quand vous chargez le pain, là, ce n'est pas français. J'ai chargé le pain. Tu charges le pain, il a fait quoi pour le charger? Donc, au lieu de tartiner le pain, vous prenez dans le pain, vous mettez le spaghetti. Non, quand vous restez en face. Spaghetti, mayonnaise, omelette, dans le même pain et beurre. Et parfois, il y a quoi? Haricots et viande. Mais il y a des formes de désordre terribles. Parce que vous ne connaissez pas la composition des aliments. Le spaghetti, c'est de la farine, non? Tu prends le pain, tu mets le spaghetti dedans. Quand je pense à vous, il peut tomber. Quelqu'un prend le pain, il met le spaghetti dedans. Il met maintenant l'omelette toujours dedans, le haricot et la viande. Quand vous prenez la composition du haricot et la composition de la viande, vous ne savez pas que c'est la même chose. Et il dit à la vendeuse de mettre beaucoup de sauce. Quand je regarde la manière dont certains mangent, moi j'attends qu'ils soient assommés après. Ça veut dire non, non, papa, c'était ce matin, je suis mort. Ça donne la force. C'est là maintenant que moi je peux travailler. Je mange comme ça, mais je vais dormir. Ce sont les somnifères accumulés. Mais ça peut te rendre malade. Hein? Quand tu manges, c'est bon. Quand ça ressort, ce n'est plus bon. On dirait que ton corps est un magasin de choses peu recommandables. Comme ça, quand tu voyages dans le bus, les gens, tout le bus ne respire plus. Mais c'est vrai, toi tu as respiré. Et le bus ne respire plus parce que toi tu as respiré. C'est quand même des choses incroyables. Parce que tu mets, même dans le VIP, le temps que la clim, le recyclage de l'air fasse le travail, tout le bus ne respire plus. Parce que toi tu ne peux pas manger de façon cohérente. Tu mélanges tout et n'importe quoi. Dis que tu as chargé le pain. On ne charge pas le pain. Tu as tartiné. Mais alors, tartiné, c'est-à-dire que quoi? Mince couche, fine de quelque chose. Ça peut être du pâté, du chocolat, du beurre. Mais toi, tu tartines ton pain de spaghetti. Je ne sais pas si... Là, alors, vraiment, c'est charger le pain. Ce n'est plus tartiné. Parce que vous êtes vraiment dangereux. Et quel genre de pain? Le pain qui est si mal fait que quand on soulève comme ça, on voit le soleil de l'autre côté. Faut pas que regardez vos cas, vous allez vous rendre malade. Mais il ne faut pas charger, il faut tartiner le pain. Donc, je disais que lorsque nous conduisons imprudemment, je rentre dire ça, parce que je ne veux pas que les gens croient que je n'ai pas dit. Quand nous conduisons imprudemment, nous risquons davantage d'avoir un accident sérieux. J'ai pris un seul exemple. Je préfère ne pas me déplacer. Je reste sur l'exemple alimentaire. Si je change d'exemple, les gens vont commencer à sortir les gros yeux que papa, tu as recommencé. Nous faisons preuve d'indiscipline souvent. dans nos habitudes alimentaires, nous risquons davantage d'avoir de sérieux problèmes de santé. Dieu peut, ça c'est quelque chose de bon à savoir, Dieu peut se servir de telles souffrances à des fins de discipline. Et cela afin que nous puissions exercer un fruit paisible de justice. Vous pouvez prendre Hébreux 12, le verset 3 à 11, toujours dans ce sens. Hébreux 12, le verset 3 à 11, et on va même prendre Hébreux 12, verset 5, qu'on va commenter. Nous devons donc toujours agir avec sagesse, selon la parole de Dieu, et nous devons éviter tout ce qui peut nous empêcher de recevoir les soins que procure la protection divine. Il y a une personne qui m'a étonné ici. Il disait qu'il jeûnait. Qu'avant d'arriver dans ce ministère, il jeûnait uniquement entre minuit et 6 heures. Dis qu'on voyait vraiment. Avant, je jeûnais, mais c'était uniquement entre minuit et 6 heures que... Quand tu as dit que je dois jeûner là maintenant, entre minuit et 15 heures, envoyé, j'ai vu le feu. Lisez les passages que nous venons de recevoir. Galates 6, le verset 7, Hébreux 12, verset 3 à 11. Lisez les deux là.
Galates 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen.
Continuez, c'était bon de rappeler cela. C'est disponible dans l'ouvrage sur les malédictions. La brochure sur les malédictions explique ce principe. C'est l'un des types de malédictions qui est relevé là-bas. Continuez. Hébreux 12, verset 3 à 11.
Hébreux 12, verset 3 à 11, est écrit. C'est pourquoi, considérez soigneusement celui qui a souffert une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne succombiez point en perdant courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à ses enfants, disant, « Mon enfant, ne méprise point le châtiment du Seigneur et ne perds point courage quand tu es repris de lui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il fouette tout enfant qu'il a vu. Si vous endurez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à ses enfants. Car qui est l'enfant que le Père ne châtie point? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tout participe, vous êtes donc des enfants supposés et non pas légitimes. Et puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que malgré cela, nous les avons respectés, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits? Et nous vivrons. Car par rapport à cela, à ceux-là, ils nous châtiaient pour un peu de temps, suivant leur volonté, mais celui qui nous châtie pour notre profit, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or, tout châtiment ne semble pas sur l'heure être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés par tout moyen. Amen.
Je voudrais faire un commentaire sur le châtiment du Seigneur, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de gens auxquels, lorsqu'on fait un reproche en leur disant « L'Esprit Saint a dit ceci », ils réagissent mal. Quand Dieu te fait un reproche, ce n'est que pour ton bien. Que pour ton bien. Ce n'est toujours que pour ton bien. Non. Si tu réagis mal, tu viens de rater quelque chose d'énorme. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Quand il te dit « Ne fais pas telle chose », dis d'abord « Merci ». Vous comprenez ce qu'il dit là? Dis d'abord « Merci Seigneur ». J'ai écouté. Je vais appliquer, je vais faire, je vais m'exécuter. Au lieu de bouder dans ton cœur, ah, c'est même quoi? Qu'est-ce qu'il veut? On ne fait pas ça à Dieu. Une mauvaise habitude que certains ont avec leur mère rebelle qui a développé même la rébellion en eux. Ils amènent ça aussi dans la marche avec Dieu. Ils ont appris à avoir la rébellion avec leur mère, avec leur père. Dans la maison, on ne lui parle jamais. Le châtiment du Seigneur, il convient de noter plusieurs faits. C'est un commentaire que je veux vous faire là-dessus. Au sujet, n'est-ce pas, du châtiment des croyants, des épreuves et des difficultés qu'il permet de nous, que nous subissions. C'est le signe que nous sommes enfants de Dieu. Si Dieu ne te punit pas, c'est que tu es un enfant dehors. Vous avez compris? Voilà. Le premier élément. C'est une assurance de l'amour de Dieu et de l'intérêt qu'il nous porte. S'il ne t'intéresse pas, il te laisse faire n'importe quoi. Vous comprenez ça? Voilà. Tant mieux pour vous si Dieu ne vous laisse pas faire n'importe quoi. Le châtiment du Seigneur a deux objectifs. Que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et que nous puissions participer à la sainteté de Dieu et continuer à vivre une vie sanctifiée, sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Donc, il y a deux conséquences possibles du châtiment du Seigneur. Nous pouvons supporter l'affliction par laquelle Dieu nous a fait passer, nous soumettre à sa volonté et continuer à lui rester fidèles. Ce faisant, nous continuerons à vivre comme des enfants de Dieu spirituels et à participer à sa sainteté. Cela produira le fruit de justice. Nous pouvons mépriser aussi le châtiment de notre Père, nous rebeller contre Dieu à cause de la souffrance et de l'affliction et par conséquent nous éloigner de lui. Parce que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, les difficultés peuvent survenir comme une conséquence de la lutte spirituelle que nous livrons contre Satan, comme un test pour fortifier notre foi et nos œuvres, comme une préparation personnelle pour consoler les autres et manifester la vie de Christ. Dans toutes sortes d'adversités, nous devons chercher Dieu, examiner notre vie, renoncer à tout ce qui est contraire à sa sainteté. Donc, il ne faut pas négliger le châtiment. Le châtiment, là, c'est quelque chose de très important. Quand Dieu tape sur tes doigts, ça fait mal. Tu dis merci, papa. Je sais que c'est pour mon bien. Même quand tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y en a qui disent d'abord qu'il faut que je comprenne d'abord. Si je ne comprends pas les choses, je ne fais pas. Tu es qui pour comprendre tout? Tu sais même quoi du tout? Tu sais même que tu es fait comment? Tu sors d'où? Tu sais que le plan qui t'a permis d'arriver ici, c'est lequel? Tu sais même que la voie qui est prévue pour toi, c'est laquelle? Donc, tu n'as même pas besoin de comprendre. Quand tu vois que c'est Dieu qui a frappé sur tes doigts, ça fait mal. Tu dis merci pour la punition. Hé, hey, regardez-moi bien. J'ai dit que vous allez faire ça. Tu dis que, Père éternel, merci pour le châtiment. Je vais m'arranger à comprendre pourquoi il faut m'aligner. Je vais obéir. Et je sais que ce n'est que pour mon bien que tu as tapé sur mes doigts. Vous avez compris? Voilà, je dis ça aux esprits rebelles qui sont là. Certains me regardent avec leurs yeux. Bien. C'est important de savoir ces choses. Le croyant souffre aussi en lui-même parce qu'il vit dans un monde de pécheurs et corrompus. Les effets du péché sont visibles tout autour de nous. Nous ressentons de la détresse, de l'angoisse quand nous voyons que la puissance du mal domine sur un grand nombre de vies. Et nous devons prier pour que Dieu démontre sa victoire sur la puissance du péché. C'est important. Vous allez garder pour vous-même là-bas Ézéchiel 9, le verset 4. Ézéchiel 9, le verset 4, Actes 17, le verset 16, 2 Pierre 2, le verset 8. Ça servira pour votre culture générale. Ézéchiel 9, le verset 4, Actes 17, le verset 16, 2 Pierre 2, le verset 8. Je sais que beaucoup de Camerounais sont dans cette situation et ils se disent que, ouais, comment Dieu peut laisser les injustices comme ça? Ils sont très nombreux à se demander même si Dieu est vivant. Voilà un pays dans lequel le Seigneur m'envoie. Un pays dans lequel le diable est arrivé à des niveaux d'arrogance et d'insolence extraordinaires, les États-Unis, où il y a ouvertement des églises sataniques. Beaucoup d'Américains se demandent que Dieu est où? Dieu est où? Vous savez quel est le thème de la croisade que l'envoyé du Dieu créateur va faire aux États-Unis? Que ton règne vienne. Le Seigneur fait cette croisade afin que son règne vienne, que les non-croyants deviennent croyants. Et ceux qui se posaient la question de savoir, mais pourquoi autant d'injustices et que Dieu ne fasse rien? Qu'ils aient la réponse matérielle, avec une intelligence matérielle, que le Dieu vivant est un Dieu qui agit, est un Dieu de justice, est un Dieu de bonté, est un Dieu de restauration, est un Dieu d'amour, est un Dieu de délivrance, est un Dieu qui accorde le salut et qui accorde les élévations. Que ton règne vienne. S'il est dit ainsi pour les autres, à plus forte raison pour nous ici. N'ayez donc pas peur, gardez la foi et vous verrez que le règne de Dieu va venir réellement tel que c'est précisé dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Bien. Le croyant souffre aussi entre les mains du diable. L'Écriture stipule clairement que Satan est le dieu de ce siècle. Quand vous prenez 2 Corinthiens 4, le verset 4, c'est précisé. Qui contrôle l'âge présent et qui est déclaré mauvais. L'esprit de 1 Jean 5, le verset 19 le dit, ainsi que Galates 1, le verset 4. J'ai dit 2 Corinthiens 4, 4, 1 Jean 5, le verset 19, Galates 4, 1, le verset 4 plutôt, Hébreux 2, le verset 14 aussi le dit. Il a reçu le pouvoir de nous affliger de diverses manières. La Bible le dit dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. L'histoire de Job, par exemple, nous rappelle un homme juste qui craignait Dieu. Dieu avait permis que cet homme soit tourmenté par Satan au point d'endurer des douleurs indicibles. Nous faisons lire Job 1 et Job 2. Rappelez-vous que Job a tout perdu. Hein. En dehors d'avoir une souffrance terrible, Job a perdu ses enfants, les biens, tout. Et comme il a passé l'épreuve, il a eu le double de toute la richesse qu'il avait après. Le double de tout. De toute la richesse. Job était très riche. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il a été attaqué par le diable. Il était injuste et Dieu était fier de lui. Donc, Jésus a témoigné qu'une femme qu'il a guérie avait été liée par Satan pendant 18 ans. Vous pouvez lire ça dans Luc 13, le verset 11. Ainsi que le verset 16. Paul a reconnu que son écharde dans la chair était un ange de Satan pour le souffléter. 2 Corinthiens 12, verset 7. Paul, qui avait un niveau d'onction exceptionnel, était incapable de guérir sa propre bosse. Paul était un bossu. Paul dont l'ombre traitait. Paul de qui il fallait seulement frotter le mouchoir, comme on fait ici, tu poses sur un malade, la personne guérit, avec une brosse. Il a demandé à Jésus-Christ 3 fois d'enlever. Jésus lui a répondu, ma grâce te suffit. Donc vous devez connaître ces choses. Et c'était un démon qui était là pour lui souffler, pour que Paul ne devienne pas trop orgueilleux, comme dit donc, je suis quand même super, méga, terramane. Ce n'est pas n'importe qui fait les miracles comme moi là. Il fallait qu'il se rappelle qu'il y a une limite. Voilà une limite sur lui. Je vous dis ça parce que certains d'entre vous ne connaissent pas le processus. Tu accordes la guérison, Dieu accorde la guérison à quelqu'un uniquement parce qu'il t'a accordé la grâce de traiter cette personne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que tu es trop puissant. Si Dieu a dit que tu vas être délivré par les mains de Robert, va chercher qui tu veux. Va chercher un super prophète, je ne sais pas d'où. Il n'aura pas la grâce de te délivrer si dans le plan de Dieu, c'est Robert qui doit te délivrer. C'est une grâce. Et comme les gens ne comprennent pas le principe là, ils font la confusion. Quand Dieu a dit que tu es dans tel ministère, tu es sous la cape, sous le manteau de telle personne. Ça peut être Joseph, ça peut être peu importe le prophète. Ça veut dire que non, moi je pars, laisse Dieu, je pars. Il va, tu mens. Il y a une grâce spéciale là-bas qui t'est due. Et tu ne peux pas partir comme ça. Il y a une conditionnalité qui relève du planning de Dieu. Dans ces choses-là, vous devez comprendre la notion de grâce. Ce dont nous jouissons dans ce ministère, c'est une grâce spécial. C'est parce qu'on est trop fort. Qu'on a trop fait. D'accord? Nous avons une discipline ferme à suivre. Mais nous jouissons au préalable d'une grâce spéciale. Qui fait que nous avons des ressources spéciales. Il faut toujours se rappeler de la logique de la grâce. Sinon, vous n'allez pas comprendre le combat là. Et le diable va vous avoir. Et quand vous priez, même demandez au Seigneur la grâce de. J'ai eu la grâce de. D'accord? On a demandé la grâce. La grâce du discernement. La grâce de la restauration. La grâce de la délivrance. La grâce des élévations. La grâce d'avoir l'amour. La grâce d'avoir l'intelligence. La grâce de la sagesse. Ce sont des grâces, tout ça. Et non, vous allez un jour dire que ça, de toute façon, moi, je suis l'enfant de l'envoyé. Puis, on est fort, hein? On est fort là-bas. Un jour même, j'ai appelé son manteau et ça a marché, non? On a le niveau. Quoi? Tu commences à gonfler. Tu es un quartier, un homme, c'est quoi? Donc, sachez que c'est une grâce qu'il y a derrière et c'est... Le diable a une certaine légitimité qui lui est offerte pour un moment, d'après la parole. Mais nous, on a la grâce de pouvoir le combattre. Alors que nous engageons dans cette guerre spirituelle contre les princes de ce monde, des ténèbres, Éphésiens 6, verset 12 dit, « Il est inévitable que nous souffrions à cause de l'adversité. Parfois, c'est dur, je le reconnais. Si vous avez pleuré dans la marche avec Dieu, il n'y a rien de malsain à ça. C'est normal. Quand ça te dépasse, tu pleures. Mais je vais vous dire ça comme ça. Et j'espère que ça va vous aider. Tu pleures, oh, tu es là. Tu es content, oh, tu es là. Tu es mécontent, oh, tu es là. Dieu même n'est pas content, oh, tu es là. Parce que tu es au bon endroit. Ne tente même pas de commencer à penser, à changer d'endroit. Tu es là. Ne va pas chercher à Langmimbu. Ou bien, tourneur de cristal, les horoscopes, l'autre bêtise, comme vous direz, horoscope, couleur préférée, nombre porte-bonnet, les bêtises. Et ils sont concentrés sur ça le matin. Pourquoi l'horoscope ne prévoit pas tous les décès qu'il y a tous les jours? Non, c'est une simple question. Pourquoi vous questionnez un peu vos usages? Donc, on reste là. Parfois, c'est dur, mais il faut accepter. Tout ça, c'est la formation. Parce qu'il y a les épreuves de persévérance derrière. Il y a l'épreuve de patience derrière. Vous devez passer les épreuves là. Il y a l'épreuve d'obéissance derrière. Il y a l'épreuve de fidélité derrière. Dieu a besoin de gens fidèles. Il y a l'épreuve de foi derrière. La foi, la ferme assurance de ce que vous espérez en Christ. La pleine conscience de ce qu'il est avec vous. Lui faire totalement confiance, même dans l'adversité. Il y a l'épreuve d'amour derrière. Que dit 1 Corinthiens 13? L'amour supporte tout. Vous comprenez ce qu'il dit, non? L'amour supporte... Comment? Si tu aimes Dieu, tu supportes toi et lui. Il est difficile, hein? Vous dites que vous avez une relation difficile avec les gens. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, toi-même, tu confirmes le code qu'il est difficile. C'est parce que Bonard dit que l'envoyé est dur. Toi-même, tu confirmes. Quoi? Bonard a dit ça, il avait raison. Mais s'il est le premier... Il y a des gens qui ont souvent dit ça, et c'est que l'envoyé, le premier, je l'ai rencontré. Il m'a dit que, mais regarde-toi, toi, tu ne comprends pas que le diable te tient. Je te colle la vérité, tu ne me fais pas. Parce que c'est la seule façon parfois de réveiller quelqu'un et de l'amener à prendre sa part de responsabilité dès le départ. C'est de l'amour, mais si le charme, la personne ne voit pas que tu l'aimes. Elle va faire, dis donc. Moi, j'aime les gens romantiques, gentils, ceux qui me fassent même les yeux doux. Il me parle durement comme ça, il se prend même pour qui? Donc, en fait, restez fidèle. Ça ne va pas vous rester là. Dieu est fâché, vous restez là. Il est content, vous restez là. Vous êtes insatisfait, vous restez là. Collez chewing-gum. Quand il est fâché, je vous dis ça. Quand il est fâché, cherchez comment on fait pour arranger, c'est tout. Vous comprenez, hein? Restez là. de commencer par avoir l'esprit qui se détache, qui commence à aller chercher que pourquoi. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés comme ça. Des hommes de Dieu vraiment ouin, hein. Il dit que dis donc, les guides parfaits comme ça ont beaucoup d'onction. Pourquoi pour moi n'arrive pas vite? Il faut que j'aille chercher l'onction là. Ah, il faut que tu ailles chercher. Il part trouver un gars laid au Ghana ou au Nigeria, bien laid. Ou au Bénin. Un sataniste de très haut rang. Il s'en va là-bas. Que papa, ça coûte combien l'onction? Ok, ils achètent, non? Les démons font les manifestations puissantes. Vous ne voyez pas, moi je ne donne pas les noms des gens. Parce que si je commence à donner les noms des gens, vous savez, c'est quel genre d'onction que quand ils ont un coup de tête, ou bien ils raclent les gens. C'est Dieu que je sais qui fait. Je ne donne pas les noms. Vous-même, vous connaissez. Vous-même, vous voyez ce que je vois souvent à la télé. Je reste comme ça et dis que ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Que tu vois quelqu'un qui fait une délivrance. Au lieu de faire la délivrance, il se préoccupe du spectacle et la délivrance. Il dit au peuple, regardez comment le feu le prend. Regardez. Parfois, certains sont vraiment des joueurs au départ. C'est-à-dire, ils sont appelés. Vous comprenez? Certains même ont été appelés. Mais ils ont refusé de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là. Que quand ça ne va pas, tu restes là. Ça va bien, tu restes là. Tu souffres, tu restes là. Tu ne bouges pas, tu restes seulement là que, ici là, je vais trouver comment on plaît à papa. Restez fidèle. Restez fidèle. Vous ne pouvez pas imaginer la récompense derrière. Parce qu'avec Dieu, il y a quelque chose de formidable. Toujours, après une épreuve, il y a une élévation. C'est un principe. Restez fidèle. Amen là est timide. Donc, l'épreuve là, la souffrance, que cela ne vous fasse pas peur. Je vous ai expliqué ça en français facile. Le père est fâché, tu restes là. Tu n'es pas content, tu restes là. Tu n'es pas satisfait, tu restes là. Tu respectes tes heures de prière. Tu continues à te préoccuper de lire la parole, de l'étudier. Tu continues à te préoccuper d'avoir le bon cœur. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu disent que contre mauvaise fortune, bon cœur. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont fondu les formules là. Tu restes là. Je vous donne mes secrets tous les jours. Certains ne savent pas comment j'ai grandi vite. Mais c'est ça. Que parce que Dieu t'a énervé. Oui, il peut t'énerver bien même. Il te dit un truc qui t'énerve ou bien il t'impose un truc qui te déplaît. Tu pleures. Quand tu as fini de pleurer, tu restes là. Bien. Que de toute façon, je sais que c'est toi Dieu. Il n'y a pas l'autre Dieu. Donc, je reste ici. Bien. Je vais savoir ce qu'il faut faire pour que toi et moi soyons d'accord. Même si tu me tapes à quoi, il n'y a pas de problème. Je reste là. Je ne te cherche pas ailleurs. Je suis ici dans ma chambre où je prie souvent. Je vais encore prier. Tu te lèves le matin à la bonne humeur. Que, quoi? Tu m'as fait pleurer hier. Et puis quoi? J'ai prévu prier à 6 heures. Je dois prier à 6 heures. Je prie à 6 heures. Je ne vais pas casser le jeûne là parce que tu m'as énervé hier. Tu m'énerves trop, hein. Mais c'est même pas grave. C'est toi, Dieu. Je reste là. Bon, si tu vois que prier à genoux, ça ne te plaît pas, va me coucher, me prier, prier à plat ventre. Je vais te faire les yeux doux jusqu'à ce que tu acceptes. Mais quand tu sais que c'est là où Dieu est, tu sais que c'est vraiment Dieu, le vrai Dieu, le roi des rois, même s'il y a des problèmes, il y a quoi? Tu restes là. Il n'y a pas l'autre route, il n'y a pas l'autre endroit. C'est comme ça qu'on gère la souffrance. Vous comprenez ce que je vous dis là? Voilà. Soyez bénis parce que vous assistez à cet enseignement. Parce que le diable, quand il a comme ça, il a vu que tu pleures, que l'épreuve à Dieu est difficile. Le diable commence à te souffler les mauvaises idées. Toutes les mauvaises idées qui passent dans la tête là, ça vient pas de toi. Hein. C'est les anges des ténèbres. Il commence à t'envoyer ça. T'envoie ça. Ouais, je n'ai pas pu manger aujourd'hui. Tu manges quoi? Hein? Si tu jeûnes ou aimes le mal. Hein? Si tu as jeûné un jour. Vraiment. Le diable te dit quand? Tu as barré Benoît, pourquoi? Benoît t'est dépanné, non? Hein? Te voilà dans Dieu foiré. Benoît était un sataniste. Le diable sait ça. Il te renvoie vers Benoît. que tu ailles retomber, que tout le jeûne que tu as, tous les examens que tu as passés silencieusement. Parce que quand tu es en train de passer les examens, Dieu ne te dit pas vite. Tu vas seulement savoir quand tu as atteint le quota. Donc si tu commets une... Parce que le diable attend quoi? Tu commets une petite erreur, il vient effacer tous tes points. Avec une erreur, hein? Quand tu es en train de ramasser les points, d'accumuler, personne ne sait. Tu sais seulement que tu as commis une erreur quand le diable est venu ramasser tous les points. Vraiment, ne tombez pas dans les pièges là. Amen. Il y a des familles comme ça, ou des situations. Tu as travaillé. Il reste un jour dans le tableau de Dieu te concernant pour qu'il te fasse passer au grade suivant. Je dis un jour. Le soir là, quelqu'un t'énerve, tu sors une mauvaise parole. Le diable prend la mauvaise parole et il va au tribunal. Voilà. Voilà, personne qui regarde. Voilà ce que tu veux donner. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde, elle a maudit. N'est pas que ta loi a prévu qu'elle ne doit pas faire. Dieu est dessus souvent à des niveaux. Oh. D'autres, il reste parfois, je dis un seul jour. Je vais vous dire ça parce que ça me vient à l'esprit. Un grand boxeur a donné un de ses secrets. On lui a demandé comment il a fait pour être champion. Il dit, il faut résister un round de plus. Un round encore. Chaque jour, résister. Chaque jour, c'est tout. Chaque jour, investissez. Chaque jour, résister. Chaque jour, chercher seulement à plaire à Dieu. Chaque jour suffit à arriver là-bas. C'est un secret simple. Et chaque jour, il y a chaque heure. Dans chaque heure, il y a chaque minute. Ne lâchez pas prise. Ne baissez pas les bras. Amen. Ne vous faites pas avoir. Amen. Donc, quand le diable vient là avec ses mauvaises idées, les mauvaises propositions, tout ça, que tu es là, tu as dit que tu ne veux plus regarder certaines choses. Tu ne vas plus faire certaines choses. Il vient te proposer, tandang, tout change. Tu commences à avoir les démangeaisons et les chaleurs qui poussent à des endroits où ils ne devraient pas avoir. Le cœur qui bat fort. Et où mais je mène, c'est que c'est pas style. Il y a, parle pas. C'est le diable. Il sait qu'il y a un cadeau qui est en train d'arriver. Peut-être que c'est le lendemain à minuit. Il est déjà 20 heures. Le diable sait qu'il ne reste que 4 heures pour que tu aies une élévation. Il vient tendre un piège. Lui, il est au courant. Toi, tu ne sais pas. Dans la marche avec Dieu, tu ne sais jamais. Je vous dis la vérité. Tu sais seulement ce que tu dois faire. Tu dois rester concentré. Tu te préoccupes tous les jours. Il faut que tu t'occupes. Et que quand tu ne sais rien, même pas à tenir, occupe-toi. Mais tu ne sais pas quoi faire. Il y a au moins la Bible à lire. Hein? Pour que je lise les travaux que le Père a produits. Que je suive les enseignements. Je ne sais rien faire. Je n'ai rien à faire. Je loue. J'adore. Je m'occupe. D'accord? Je vous donne les astuces pour chasser le diable. Tu es dedans. Tu ne peux pas être à deux endroits au même moment. Tu peux être en train d'adorer, adorer, en même temps que tu es en boîte. Non. Donc, quand tu occupes déjà ton temps, tu te disciplines toi-même, tu forces. L'épreuve traverse. La difficulté là traverse. Tu remportes la victoire le jour là. Le diable dit que je te huerai une autre fois. Mais là, c'est qu'il a perdu. Prochain jour, tu luttes, c'est ça encore. Ça, tu dis que de toute façon, ici, là, tu dis que c'est Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Comme moi, je sais que c'est Dieu. Je reste là. Je l'ai vu déjà faire avant. Parce que le diable fait autre chose pour vous affaiblir dans l'épreuve. Il vous rend amnésique. Oui, tu oublies. Le Dieu a fait les miracles dans ta vie. Il a fait plein de miracles. Le diable vient te faire oublier que Dieu a fait les choses dans ta vie. Il commence à dire que regarde comment c'est dur. Et c'est ton Dieu là qui t'a laissé comme ça. Dans le foire, quand tu es foiré, comme un lézard. Même les souris au quartier mangent mieux que toi. Toi, il n'y a même pas les résidus pour toi. Regarde comment tu es mal habillé. Regarde comment tu as maigri. Voilà le genre de choses que le diable s'est envoyé dans la tête. Tu es en train de jeûner là avec joie. Le diable dit que toi-même, tu vois comment tu es laide. Tu es en train d'atteindre le mari. Tu auras fait un mari comme ça. Quel homme va te voir? Regarde comment tu es laide. Or, entre-temps, Dieu est en train de te voir belle. Il voit comment ton esprit est en train de s'illuminer de plus en plus, se charger de feu et de lumière de plus en plus. Quand tu rencontres Dieu, il te dit, oh ma fille, qu'est-ce que tu es belle. Amen. Et tu ne comprends pas qu'il est en train de te parler de toi, pas de l'habit. Parce que quand le diable te dit que tu es maigre, il est en train de parler de l'habit, le vêtement qu'est le corps physique. Il te ment. Quand tu as mis les feux de position, les clignotants et tout le reste là, les phares, les anti-brouillards et tout. Quand tu as mis tout ça, hein, est-ce que ça fait ta beauté spirituelle? Est-ce que ça te fait passer les examens spirituels? C'est là-bas où le diable vient te dire que regarde comment tu es laid. Regarde même ta peau. Si par exemple une délivrance est en train de se faire, parce que certaines délivrances se passent par des manifestations cutanées, ça sort par la peau. Il vient, c'est là où il vient te dire que regarde comment ta peau est devenue laid. Lui, c'est ce qui sort. C'est le poison qu'il a mis dans ton corps qui est en train de sortir. Mais il faut qu'il te fasse croire que tu es laid à cause du poison qui sort. Regarde même ta peau, ça ressemble à la peau du lézard. Ich. Regarde, avant tu mettais les laits de beauté, maintenant tu mets l'huile de lit. L'huile de lit, c'est quoi? Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Et vraiment être conscient du combat. Vous comprenez ce que je vous dis là? Parce que la souffrance a beaucoup de formes. Il y a certaines personnes qui ont des délivrances qui se passent à travers une maladie. Par exemple, quelqu'un fait des selles, il dit que c'était grave. Mais c'est une délivrance. Si tu ne demandes pas à l'envoyer, tu ne sauras pas que c'était une délivrance. Hé, papa, c'était grave, ça sortait seulement le lot. Mais c'était une délivrance. Oh, j'ai trop vomi aujourd'hui. Mais c'est une délivrance. Demande à l'envoyer, l'envoyer va voir avec toi. Il va te dire, non, c'est une délivrance. Ne t'inquiète pas. Et parfois, on peut t'opérer, ça fait mal. Il y a des opérations chirurgicales. On enlève quelque chose, il y a un endroit qui fait mal. Mais oui, c'est qu'il y avait un dispositif installé sur toi là-bas, il fallait enlever ça. Quand on a enlevé, ça fait mal, puisque ça a créé un nouvel équilibre, le temps que ton corps s'adapte. Applaudissez pour l'Esprit Saint, parce que vous avez plein de secrets. Donc, alors que nous nous engageons dans une guerre spirituelle comme le prince, contre le prince de ce monde, des ténèbres, Éphésiens 6, 12, il est inévitable que nous souffrions à cause de l'adversité. Pour nous rendre capables de contrer de tels assauts, Dieu nous a donné une armure spirituelle. Éphésiens 6, le verset 10 à 18, vous allez lire ça. Et des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. Nous devons donc revêtir toute l'armure de Dieu et prier en prenant la résolution de persévérer fidèlement dans sa force. Satan et ses disciples se plaisent à persécuter les croyants. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent vivre dans la vérité et dans la justice seront persécutés à cause de leur foi. Vous devez aussi avoir conscience de ça. Il y a des gens qui sont persécutés dans les maisons parce que le diable est assis dans leur famille. Vous comprenez? Donc, quand le diable est assis dans ta famille, c'est compliqué. C'est normal que tu sois persécuté. Et le temps que tu obtiennes toute l'autorité de l'Esprit Saint, c'est d'abord la persécution que tu peux avoir. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint finisse par écraser totalement tes ennemis et que ces ennemis deviennent ton marche-pied. Donc, la phase initiale, on ne doit pas vous inquiéter que, hé, vraiment, je suis persécuté, hein? Vraiment, je ne sais même pas comment je peux prier dans la maison aussi. Hein? Quand je veux prier à minuit, mettre la musique. Quand je veux prier, il n'y a pas l'endroit pour prier. Quand je veux prier, non. Ça, c'est les raisonnements de faiblesse. C'est le diable qui est en train de te suggérer d'abandonner le combat. C'est lui-même qui est en train de te persécuter. Et pendant qu'il est en train de te persécuter, il est en train de t'empêcher de comprendre les enjeux derrière. Vous comprenez ce que je dis? Prenez conscience de ce que c'est un processus. Quand vous êtes en Christ, vous êtes persécuté. Si moi l'envoyé, les gens m'insultent tous les jours, on va faire quoi de vous? Je ne vais pas aller chercher jusqu'à Jésus-Christ, parce que ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ, on n'a pas les mots pour qualifier. Moi l'envoyé qui suis accessible là. Dès que je, mais ça a duré pendant des mois, hein. Dès que je publiais quelque chose sur Dieu, on m'insultait. Sur Internet, sur WhatsApp, partout. Facebook, Twitter, dès que je publiais quelque chose sur Dieu, on m'insultait. J'ai dit que ils mentent, je vais encore publier. Il y a une des phases où, comme au fur et à mesure que je connaissais la parole, j'entre dans les débats. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de les écraser tel que quand une publication est faite, c'est le silence. Ou bien quand quelqu'un m'insulte, je n'ai plus besoin de répondre. C'est d'autres croyants et nés de nouveau qui le prennent en charge qu'on t'a vendu. Donc, c'est un processus. Quand vous êtes persécuté, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien. Cela servira pour la gloire de Jésus-Christ. Et le Seigneur va vous guérir et il va vous venger. Il est écrit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la... Moi, par exemple, d'ici la fin de l'année, je vais me dire quoi? D'ici 3 mois, il va y avoir quelque chose de spectaculaire. C'est les gens qui m'ont persécuté pendant longtemps sur le plan professionnel. Dieu est en train d'organiser leur punition. Elle a créé à Pierre à écraser. Ouais, quand la pierre écrasée, écrase sur... Voilà. Ça écrase lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, d'ailleurs, le fait de souffrir ainsi à cause de la justice peut être la preuve d'un véritable attachement à Christ. C'est ce que Matthieu 5, le verset 10 dit. Ainsi que 1 Pierre 4, le verset 12. Puisque tout véritable croyant est appelé à endurer la persécution et le reproche à cause de la justice, nous devons tenir ferme et avoir confiance en celui qui est juge justement. Celui qui est juge est celui qui juge. Matthieu 5, le verset 10 à 11. Et ainsi aussi, nous avons 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Pierre 2, le verset 23. Est-ce que vous pouvez prendre les versets que j'ai donnés récemment, les plus récents, à savoir Éphésiens 6. Non. Éphésiens 6, verset 10 à 18. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Matthieu 5, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 12. Matthieu 5, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et 1 Pierre 2, le verset 23. Je relis. Éphésiens 6, le verset 10 à 18. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. Matthieu 5, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 12. Matthieu 5, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et 1 Pierre 2, le verset 23. On va conclure par là. Je vous ai dit que cet enseignement étant technique et assez long, nous allons le faire en deux temps. Lisez les passages que j'ai donnés et on va conclure par là.
Éphésiens 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus pour cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen.
Amen. Lisez 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6.
2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen.
Amen. Prochain passage.
Matthieu chapitre 5, verset 10 à 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen.
Je voulais faire un commentaire rapidement là-dessus. Pour ceux qui sont persécutés pour la justice, tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu, pour la cause de la justice, seront persécutés. Ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice, et de pureté et qui, en même temps, refuse de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le mode de vie des chrétiens tièdes. Pourquoi les chrétiens tièdes? La parole dit, ne soyez ni froid ni tiède, mais soyez chaud. On n'est pas chrétien à moitié ou au un quart ou au deux dixièmes ou je ne sais pas quoi. On n'a aucun chrétien à 100% si ce n'est plus. D'ailleurs même, ça doit être plus. Quand on parle d'onction qui surabonde, il s'agit de quoi? Il s'agit de débordement d'onction. Si l'onction ne déborde pas, on ne peut pas frotter sur toi quelque chose et puis on traite les gens avec. Il faut un débordement. Parce que ça dépasse alors l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, pour que quelque chose tienne dans un récipient, il faut que ce soit au maximum à ras. Le bord supérieur. Or, chez Dieu, ça peut remplir, ça tient toujours. Vous comprenez ce que je dis là? L'onction chez Dieu, c'est comme un liquide qu'on peut verser dans un récipient. Ça remplit, ça déborde, mais ça continue à tenir. Malgré le fait que ça déborde, ça reste toujours cohérent et en harmonie avec le contenu. C'est ça l'onction. C'est ça la plénitude de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le fait de chanter jusqu'à le feu sort. Ça n'a rien à voir avec la plénitude de l'Esprit Saint. C'est vous qui parlez le français là, non, je vous imite seulement. Je chante jusqu'à le feu sort. Encore que c'est une façon de parler sa langue maternelle en français. Donc, il y a cet attachement que vous devez développer dans la justice. Je disais que ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice et de pureté, et qui en même temps refusent de faire des compromis avec cette société corrompue, avec le mode de vie des chrétiens tièdes, subiront l'impopularité, le rejet et les critiques. N'ayez pas peur des critiques. La persécution et l'opposition viendront du monde. Et parfois, ceux qui se trouvent au sein même de l'Église professante sont vos adversaires. Je n'en dirai pas plus. Lorsqu'ils passent par ces moments de souffrance, les chrétiens doivent se réjouir, car Dieu accorde une plus grande bénédiction à ceux qui souffrent le plus. Les chrétiens doivent veiller à la tentation de transiger sur la volonté de Dieu afin d'éviter la honte, l'embarras ou une perte. Je vais vous dire déjà une chose, la parole le dit. Celui qui a honte de Dieu, Dieu aura aussi honte. Bien. Les principes du royaume de Dieu ne changent jamais. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui souffrent et endurent la persécution à cause de la justice se voient promettre le royaume et ses récompenses célestes. Je veux dire en d'autres termes, votre héritage terrestre et votre héritage céleste. Continuez la lecture des passages. Il nous reste quoi? 1 Pierre 4, le verset 12, et puis 1 Corinthiens 15, le verset 58, ainsi que 1 Pierre 2, le verset 23. Dernière lecture.
1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous détruire. Amen.
Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de quoi?
Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver.
C'est intéressant de lire cette histoire de fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Le Nouveau Testament insiste sur le fait que les épreuves sont indissociables de la vie des croyants fidèles, dans un monde impie, contrôlé par Satan et composé et opposé à l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ avec une foi dévouée et fidèle, et vivent par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, qui aiment la vérité de l'Évangile, connaîtront l'affliction et les larmes. En fait, souffrir à cause de la justice est une preuve de l'authenticité de notre consécration à Christ. Est-ce que vous comprenez ça? L'amen la montre que les gens n'ont pas compris. Ou d'autres ont peur d'être authentiques en Jésus-Christ. En fait, souffrir à cause de la justice est une preuve de l'authenticité de notre consécration à Christ. Amen. Est-ce que le Amen là maintenant est compris? Bien. Pour cette raison, les problèmes de notre vie peuvent signifier que vous êtes agréable à Dieu. Certains me regardent longtemps pour dire que le Père, si tu parles de quoi? Oui! Les problèmes dans votre vie peuvent signifier que vous êtes agréable à Dieu et que vous lui êtes fidèle. Ils accompagnent souvent votre combat de la foi contre le péché, le monde impie et Satan. Et au moyen d'épreuves douloureuses, Dieu permet que vous partagiez ces souffrances afin de porter en vous les traits de caractère qu'il désire que vous manifestiez. Cependant, lorsque vous souffrez et restez fidèle à Christ, vous pouvez être considéré comme un béni, comme béni. Une bénie, un béni, comme béni en tout cas. Car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Là alors, là, amen, là est le bon amen. Amen. Continuez la lecture.
1 Corinthiens 15, verset 58 dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen.
Amen. Dernier passage à lire, c'est 1 Pierre 2, le verset 23.
1 Pierre 2, verset 23, il est écrit.
Il est écrit, oui.
Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Amen.
Ne vous vengez pas vous-même. Ne développez aucune rancune personnellement. Et je vais vous le dire aujourd'hui, parce que mes enfants posent souvent de très belles questions quand on est ensemble. Je vais vous dire, face aux insultes, face à l'arrogance et à l'insolence, face à la méchanceté et à l'incrédulité, ayez conscience de ce que Dieu vous vengera. Tout le mal que les gens vous font, que vous en soyez au courant ou pas, Dieu fait la comptabilité de tout le mal que les gens vous font. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Tout le mal que Dieu, les gens vous font, Dieu, lui, est au courant du mal qu'on vous fait. Moi, il y a souvent ces dossiers qui sortent après, je suis surpris. Je me retrouve pour dire que, c'est comme ça que vous exclamez au sud-ouest, non, au nord-ouest. Même eux, là, ils avaient fait des trucs sur moi. Le père dit oui. Je faisais la comptabilité de... Mais si tu pouvais me soupçonner que l'autre l'a fait. Lorsque vous priez, j'ai demandé ça à mes enfants, je vous le demande. Demandez la délivrance contre les mauvais liens familiaux, les mauvais totems familiaux, les mauvaises fondations familiales. Vous avez les cousins jaloux de vous. Vous avez les cousines jalouses de vous. Vous avez les tantes jaloux de vous. Vous avez les oncles jaloux. Vous avez même certains parents jaloux. Quand on met son enfant au monde, il est jaloux de sa propre fille. Demandez seulement, vous n'avez pas besoin de savoir qui ou contre qui. Il n'y a aucun doute que cela a existé dans vos familles. Il y a toujours des oncles, des tantes, des cousins, des amis, des frères, tout ça. Laissez d'abord même là-bas. Je dis que les mauvaises fondations familiales, les mauvaises alliances sataniques, les pactes sataniques, priez afin que l'Esprit Saint brise cela, brûle cela, annule cela, anéantisse cela. Demandez votre délivrance à ce niveau-là. Les hommes forts dans le village. Demandez ça. Au fur et à mesure que vous demandez, l'Esprit Saint répond. Ça fait que ça accélère vos délivrances, ça accélère vos restaurations, ça accélère aussi vos élévations. Mais sachez que ce n'est pas à vous de vous venger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en Jésus-Christ, la récompense reste toujours inimitable, inégalable. Pourquoi donc se préoccuper du mal qu'on vous a fait, alors que vous savez que ce que vous avez à gagner est de très loin supérieur à ce que vous pouvez perdre? En Jésus-Christ, le principe le plus puissant, c'est l'amour. À quoi se vous sert-il d'être rancunier, alors que ce que vous avez à gagner est de très loin supérieur à ce que les autres vous ont fait perdre? Parce que vous êtes toujours en train de dire, tu vois ce qu'ils m'ont fait. Ouais, vous ne croyez plus en la justice de Dieu. Tu vois ce que la femme là m'a fait. Laissez vos souffrances dans le passé. Laissez la rancune dans le passé. Laissez les douleurs dans le passé. Laissez les frustrations dans le passé. Embrassez la vie à Dieu. Embrassez Jésus-Christ. Embrassez la prière. Embrassez la lecture de la parole. Embrassez la méditation de cette parole. Embrassez les louanges et les adorations. Embrassez le jeûne chaque fois que c'est nécessaire. Embrasser l'obéissance dans la marche avec Dieu. Amen. Embrasser la persévérance dans la marche avec Dieu. Embrasser la patience dans la marche avec Dieu. Embrasser la foi dans tout ce que cela veut dire dans la marche avec Dieu. Et embrasser l'amour parce que Dieu est d'abord amour. Que Dieu vous bénisse abondamment.